Il y en a qui connaissent Jim Elliot. Jim Elliot est un missionnaire célèbre. C'est un missionnaire américain qui est mort en Amérique du Sud, pardon, en
1955,
en essayant d'évangéliser une tribu d'Indiens. Les Indiens d'Amazonie. C'est un homme totalement consacré au Seigneur. Il a inspiré beaucoup de gens à servir le Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il était étudiant à l'université, plutôt à l'Institut biblique, je crois que c'était à Wheaton, si je ne me trompe pas. Il n'était pas apparemment intéressé par les filles. Mais les filles étaient très intéressées par lui. Et une certaine Elisabeth, qui allait devenir sa femme, espérait qu'il allait répondre à ses attentions. Elle essayait d'être belle devant lui, d'être sympathique et aimable. Mais la seule chose qui comptait pour lui, c'était Dieu, servir Jésus. Et à la fin de l'année, dans les universités américaines, on fait signer un livre de photos. Et je crois que c'est dans ce livre qu'elle lui avait présenté son livre à elle, en espérant qu'il allait mettre un petit mot gentil. Et il avait simplement griffonné une référence biblique. 2 Timothée 2:4. Elle ne savait pas par cœur qu'est-ce que c'était que ce verset. Et juste après l'avoir quitté, elle est allée vite dans un coin ouvrir sa Bible pour voir enfin qu'est-ce qu'il lui disait. Et son cœur s'est un peu effondré lorsqu'elle a lu le verset « Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Autrement dit, il n'était pas prêt à laisser une relation amoureuse être un obstacle dans son engagement pour le combat avec le Seigneur. Les choses ont dû s'améliorer puisqu'ils ont fini par se marier. Mais cette anecdote nous rappelle que la vie chrétienne, c'est un combat. Nous allons en parler dans notre passage aujourd'hui du Deutéronome 20 et 21. Vous savez que le Deutéronome, en fait, c'est le plus long sermon enregistré. Les enfants d'Israël sont prêts à entrer finalement en terre promise. Et Moïse, qui sait qu'il n'ira pas, lui, va leur rappeler tout ce que le Seigneur lui a confié. qui est merveilleux, c'est que la Bible, dans son intégralité, veut nous parler à chaque époque, à chaque moment, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Et nous allons voir que les premiers versets du chapitre 20, en fait, étaient peut-être destinés au peuple d'Israël. Mais sans être très spirituel, on peut se les approprier, notamment pour l'équipe aujourd'hui. Lisons les quatre premiers versets du chapitre 20. Lorsque tu sortiras pour combattre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il dira, « Écoute Israël, vous vous approchez aujourd'hui pour combattre vos ennemis, que votre cœur ne faiblisse pas. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis, afin de vous sauver. » Il serait facile de transposer, lorsque vous montrez à Saint Augustin, et vous verrez plein d'athées, de gens qui se moquent complètement de Dieu, des gens bien plus nombreux que la poignée que vous êtes, quand vous serez à l'Ariane, quand vous serez à Grasse, vous ne les craindrez pas. Parce que l'Éternel, votre Dieu, qui vous a sauvé, il va se sauver du pays de l'esclavage au péché. Que Dieu Tout-Puissant est avec vous. Amen. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Le prêtre, à l'époque, accompagnait les combattants. Bien sûr, on peut voir là un type de notre grand prêtre, notre grand sacrificateur, Jésus-Christ. Il nous a dit qu'il était avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous l'avons rappelé en priant. La vie chrétienne, c'est un combat. Et peut-être que lorsque vous serez en public, peut-être qu'il y a des gens qui se moqueront de vous, il y aura peut-être des insultes. Et notre première réaction, c'est d'en vouloir à ces gens. Il n'y a pas longtemps, on était dans la rue et j'ai entendu quelqu'un qui disait, alors qu'on chantait, « Ah voilà, ça c'est encore une secte. » Ma première réaction, je l'admets dans la chair, ça a été d'aller vers la personne et lui dire, « Qu'est-ce que vous dites que c'est une secte ?» Vous n'avez pas le droit d'accuser les gens gratuitement. J'étais en colère après cette personne. Et la personne était encore plus en colère après cette secte, bien sûr. Mais il faut nous rappeler que ce n'est pas contre les personnes que nous battons. C'est pas contre la chair et le sang. Autrement dit, ce n'est pas des êtres vivants. Et c'est contre un monde spirituel qui s'oppose à Dieu. Paul nous dit que c'est contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et donc, pour combattre contre ces choses-là, ce n'est pas en ayant une sono plus forte. C'est pas en ayant un service d'ordre puissant. C'est pas en ayant les meilleurs acteurs sortis des écoles de théâtre. C'est pas les musiciens les plus doués. Ni même les personnes les plus engagées spirituellement. Dans la façon dont on peut en juger à l'extérieur. Il faut mettre les armes spirituelles. Et Dieu merci, nous avons des armes spirituelles. Et comme nous ne combattons pas contre la chair, mais contre des choses spirituelles, il faut mettre ces armes spirituelles. La vérité pour ceinture à vos reins. La vérité que vous connaissez, ça doit être ce qui vous fortifie à l'intérieur. Peut-être que vous allez être fatigué, vous avez déjà le décalage horaire, vous avez une nourriture différente. Nous on trouve ça bon, mais peut-être que les anchois ça vous dit rien. Les circonstances vont être un peu difficiles, mais vous savez que vous détenez la vérité. Nous invite à mettre la cuirasse de la justice. La justice, ça veut dire être accepté par Dieu. Si vous êtes chrétien, si vous avez reçu le Seigneur dans votre cœur, vous avez cette justice. Et vous pouvez la mettre comme une protection de votre cœur. Puis il nous dit de mettre comme chaussure les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Peut-être que vous avez des Nike. Peut-être que vous avez dit c'est mieux de mettre des chaussures noires en Europe. Ce qui compte, c'est que vous ayez envie de voler avec la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle vous donne de bonnes dispositions. Elle vous donne envie de subir tous ces inconvénients pour donner ce bon message. Elle va vous donner des yeux pour voir des gens qui, malgré les apparences extérieures, sont vides à l'intérieur. Des gens qui sont au bord du précipice, qui vont tomber dans ce précipice sans fin pour l'éternité. prenez aussi le casque du salut. La tête, c'est bien sûr l'endroit vulnérable. Un coup d'épée à la tête, en principe, ça vous achève. De savoir que vous êtes sauvé, peu importe ce qui vous arrive, ça vous protège. Ça protège aussi vos pensées. Ça protège vos réactions. Le casque du salut. Et puis il faut une arme offensive. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors bien sûr, on connaît ces versets qui terminent bien sûr par prier en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Mais cette semaine, ces deux semaines, je vous invite vraiment à mettre ça en pratique, concrètement. Peut-être que lorsque vous allez avoir des conversations avec des gens dans la rue, même peut-être des visiteurs non chrétiens dans les églises, n'oubliez pas la parole de Dieu. Une petite parole, un verset. C'est plus important que vos dissertations philosophiques que vous avez peut-être fait à l'école. Encore une fois, la parole de Dieu que vous avez mise dans votre cœur, elle ne va pas retourner au ciel sans avoir accompli son effet. Et encore une fois, peut-être que certains sont aguerris, entre guillemets, certains ont déjà fait des campagnes d'évangélisation. Pour d'autres, c'est peut-être la première fois. Et peut-être que vous êtes un peu anxieux. C'est pour ça que Dieu nous parle ainsi. Si Dieu encourage les combattants, c'est qu'il sait qu'il y a la peur qui s'installe. Et donc il y a un monde spirituel qui s'oppose à Dieu. Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. David disait: je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et c'est vrai que, de façon générale, lorsqu'on veut annoncer le message chrétien, que ce soit par une action ponctuelle d'évangélisation ou jour après jour dans notre quartier, dans nos familles, dans nos au travail, on peut avoir l'impression qu'on n'a aucune force contre les armes du monde. On voit les mass médias, les chaînes de télé, des moyens financiers énormes. Une immense majorité de gens qui apparemment se moquent de Dieu n'en font aucun cas. On voit les armes de l'ennemi qui peut enchaîner les gens à leur péché. Et si on en croit les statistiques, une campagne d'évangélisation, s'il y en a quelques conversions en France, c'est merveilleux. Et toute cette opposition, ça peut nous sembler comme des chars. Et nous ne sommes que des petits fantassins. Mais comme le disait l'Éternel, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Amen. Par son esprit, par sa puissance. Et donc ne soyez pas découragés à l'avance. Dieu est avec vous. Et si vous êtes arrivé au bon moment, peut-être que vous allez assister à un réveil. Amen. Est-ce qu'il croit, il y en a qui croient que ça peut arriver? Vous, gens de peu de foi, nous devons nous attendre à Dieu. Si nous attendons rien, il ne va rien faire. Mais peu importe, ce qui compte, c'est de savoir qu'il est avec vous. Dans les versets qui suivent, on voit qu'il y avait des exemptions du service militaire. J'ai fait mon service militaire en France. Et je me suis amusé comme un petit fou. C'était une année de vacances. J'étais dans le génie. Et on construisait des bateaux, des ponts, on traversait des rivières à la nage. C'était formidable. Mais j'avais des copains, eux, qui avaient trouvé de l'aide auprès d'un docteur pour dire qu'ils avaient les pieds plats. Il y avait toutes sortes d'excuses comme ça. Il y en avait qui essayaient de se faire passer pour des imbéciles. C'était l'exemption pécade, je crois. Ça veut dire qu'on était mentalement incapable d'aller à l'armée. C'était gênant après pour aller tout de suite trouver un travail. Il ne fallait pas tomber sur un patron militariste. Mais là, nous voyons des exemptions bibliques. Et après que le prêtre ait parlé et rappelé aux combattants que le Seigneur était avec eux, qu'ils n'avaient aucune raison de craindre. Les officiers, donc ceux qui s'occupaient d'organiser les combattants, parlaient au peuple en disant « qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne l'a pas encore inaugurée ? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre ne l'inaugure. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a pas encore joui ? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre n'en jouisse. Qui est-ce qui s'est fiancé avec une femme et ne l'a pas encore prise ? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison de peur qu'il ne meure au combat et qu'un autre ne la prenne. » Et là, on voit qu'il y avait trois raisons. La personne qui venait de payer sa maison et qui n'avait pas encore pendu la crémaillère. Il disait, retournez, et ce qui est important, c'est de peur qu'il ne meure au combat et que ce soit un autre qui en jouisse. Il était dit, qui est-ce qui a planté une vigne et qui n'en a pas encore joui? On pense que planter une vigne, avant qu'elle donne du vin, des fruits, des raisins, il fallait compter 3 ou 4 ans. Qu'il s'en aille, qu'il retourne à sa vigne, de peur que ce soit quelqu'un d'autre qui en profite. Qui est-ce qui s'est fiancé avec une femme et qui n'est pas encore marié avec elle? Qu'il retourne et qu'il aille avec sa fiancée. Là, on peut voir les choses de deux façons différentes. Je crois que ces deux façons sont toutes les deux bonnes. On peut penser que si quelqu'un est en train de terminer l'installation de la moquette chez lui, en train de remettre l'électricité pour arriver et le brancher à son ordinateur, ou s'il vient de commencer un travail, donc commencer sa propre entreprise, bien s'il a, il pense qu'à une seule chose, c'est sa future femme. Une lecture, c'est de dire une telle personne. Ne va pas être un bon soldat parce qu'elle va avoir l'esprit préoccupé. Au lieu de penser à combattre, à vaincre, ils vont penser « Oh, ma vigne, je me demande si quelqu'un va tailler. » Et donc ça irait dans l'idée qu'un soldat en campagne, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, comme disait Jim Elliot. Et c'est vrai que ces distractions peuvent être néfastes. Et pour vous qui êtes arrivés là de loin ou de près, j'espère que votre préoccupation principale, c'est pas de recevoir un coup de fil de votre petit ami, de votre petit ami eux. Que vous allez appeler la bourse tous les jours pour voir où en sont vos actions. Il faut que vous soyez motivé, que vous vouliez aller au combat. Parce que si on s'engage dans une bataille, il faut s'engager pour la gagner. Et c'est peut-être un problème dans nos églises, c'est qu'on combat le combat spirituel. Et je parle pour moi-même. Mais est-ce qu'on est prêt à tout donner? Ça, c'est une première lecture qui est confortée par ce qui suit. Les officiers, verset 8, continueront à parler au peuple et diront « Qui est-ce qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui ?» On a parlé d'une motivation intérieure, il faut vouloir gagner ce combat. Il faut aussi une motivation extérieure. Quand on voit d'autres chrétiens qui se battent avec zèle, avec ardeur, avec sainteté, ça donne envie de le faire. Par contre, la peur est très contagieuse. La Bible est replète d'exemples. Vous vous rappelez du rapport négatif des 10 espions? Et comment l'ensemble des Israélites avaient adopté ce point de vue négatif? Oh oui, ils sont, c'est des grandes murailles, on est comme des sauterelles. Il y a cet épisode de Gédéon, dans le chapitre 7 du livre des Juges. Le peuple devait se battre contre les Madianites. Il y avait à peu près 32 000 soldats israélites contre un grand nombre, un beaucoup plus grand nombre, on pense, je crois, 135 000 peut-être, Madianites. Et le Seigneur veut que la gloire lui revienne. Si vous voyez des fruits, ne dites pas quelle belle organisation, quelle consécration, nos sacrifices sont payés, la gloire appartient à l'Éternel, il est très jaloux de sa gloire. Et il nous donne des victoires s'il peut nous faire confiance pour lui donner le crédit de ces victoires. Amen. Et donc, l'Éternel se disait, ils sont trop nombreux. Verset 2, il disait à Gédéon, si je te donne la victoire, je livre Madian entre tes mains. Israël pourrait. Alors, pour être sûr que la gloire lui revienne, il va élaguer. Il va faire des coupes sombres. Et la première façon de passer de 32 000 à 10 000, c'est de dire s'il y en a qui ont peur, mais qui retournent chez eux. Il y en a 22 000 qui s'en vont. Il en reste 10 000. Et le Seigneur dit encore, ils sont trop nombreux. Et là, il utilise un petit stratagème. J'ai toujours un peu du mal à me rappeler qui sont les bons et qui ne sont pas les bons. Mais je vais vous donner un jeu de mots qui vous permettra de vous en rappeler jusqu'au retour du Seigneur. Mon fils Sébastien n'est pas là. Ah si, zut. Il leur dit de descendre à la rivière et que là, il allait faire encore un tri. Tous ceux qui vont laper l'eau comme un lap avec la langue comme lappe un chien, comme un chien lappe l'eau. Mêlés à part de tous ceux qui vont se mettre à genoux pour boire. Et en fait, l'idée, c'est que ceux qui boivent en lapant, alors eux, ils ramassent avec le creux de la main un peu d'eau et ils la lapent, ils la boivent comme ça. Ceux-là sont vigilants. Ce sont ceux-là qui sont prêts à combattre, qui sont sur leur garde. Si on vous mettait à quatre pattes, il y a 500 personnes qui sont à quatre pattes devant la rivière, c'est facile pour l'ennemi d'arriver et de les prendre par surprise. Donc, les bons, c'est ceux qui ont la paix. Autrement dit, pour faire la guerre, il faut la paix. Vous en rappellerez maintenant. De 10 000, il passe à 300. Et là, ils vont remporter la victoire et le Seigneur aura la gloire. Donc autrement dit, là, le Seigneur dit, autant avouer votre peur plutôt que de Souvent, lorsque nous avons peur de faire quelque chose, peut-être des gens n'ont jamais fait telle ou telle forme d'évangélisation. Par exemple, faire du porte-à-porte. C'est vrai que si on n'a pas, on l'a jamais fait, si on n'a pas envie d'être pris pour des témoins de Jéhovah. Souvent, au lieu d'avouer sa peur ou son désintérêt, on va se cacher derrière des critiques. On va dire, oh mais ça marche jamais, ça, vous avez pris pour des témoins de Jéhovah. Le mieux, c'est de dire, ça m'intimide, ou j'ai pas envie, je préfère faire autre chose. Et il n'y a rien de mal à ça. Le Seigneur ne les punit pas pour avoir peur. Il a dit seulement ceux qui sont au combat, ceux qui ont peur, ils peuvent faire plein d'opérations de soutien. Mais dans tous les travaux pour Dieu, que ce soit le travail missionnaire, le travail d'église, l'évangélisation, il est important d'en vouloir. Il vaut mieux être quatre dans la rue qui en veulent que 50 qui souhaiteraient être ailleurs. Et alors, je disais qu'il y avait deux façons de voir les versets 5 à 7. Parce qu'en fait, un peu plus loin, verset 5 du chapitre 24, on aura une durée de l'exemption du service militaire. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il ne partira pas à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté pour raison de famille pendant un an et il réjouira la femme qu'il aura prise. C'est vrai que lorsqu'on regarde, lorsqu'il est question de cette vigne, de cette maison neuve, de cette vigne, de cette fiancée, il n'est pas explicitement dit que c'est parce qu'ils vont être distraits. Mais c'est par peur que quelqu'un d'autre n'en jouisse. Et c'est en lisant le pasteur John Corson que j'ai vu le mérite d'une autre vision de ces choses. Ces versets peuvent être interprétés comme une invitation de Dieu à jouir des bénédictions qu'il nous offre. Les pauvres, vous aurez toujours avec vous. Le combat spirituel, on sait quand il terminera, ce n'est pas de ce côté de l'éternité. Le combat est là, mais Dieu nous aime. Dieu veut nous bénir. Il veut nous combler de grâce. Il préfère que ce soit nous qui bénéficions de cette maison que nous avons construite, plutôt que quelqu'un d'autre. Cette occupation, cette profession que nous avons peut-être commencé, il veut aussi que nous en profitions. Il veut nous combler au niveau d'une vie sentimentale, si c'est notre souhait, une vie familiale. Il veut nous combler de cadeaux. Est-ce que nous le croyons aussi, ça? C'est très important. Parce que sinon, le combat, ça peut être légaliste. Il y a ce proverbe séculaire, je crois que si un arbre, un arc est toujours tendu, il va finir par se casser. Je crois que le Seigneur veut que nous sachions aussi avoir des moments de bonheur. Ça fait partie de la vie qu'il a pour nous. Notre exemple initial, Jim Elliot, a connu aussi la joie d'avoir une femme. Et ce qui est important, c'est de réaliser que les deux peuvent coexister. Le Nouveau Testament nous dit que lorsque nous trouvons quelque chose à faire, faisons-le de toute notre énergie. Et je me prêche à moi-même. Il y a un livre qui s'appelait « Quand je me relaxe, je me sens coupable ». Non, le Seigneur veut aussi des moments de joie. Des moments de repos. Et aussi du sérieux quand on est au combat. Et les deux sont possibles. Et je crois que Paul a prévu une demi-journée de repos. Non, plusieurs. Je crois que c'est important ça, pour cultiver une relation qui nous donne envie d'aller au combat, d'aller donner cette bonne nouvelle si nous sommes malheureux parce que nous sommes toujours en treillis militaire avec nos Rangers. On ne va pas donner aux gens envie de joindre l'armée. Alors peut-être que ça surprendra certains, cette double interprétation, mais je crois qu'elle est profondément réelle. Pour être efficace au combat, il faut pouvoir se apprécier tout ce que le Seigneur veut nous donner. Et on a déjà cité le psaume 23 que vous connaissez tous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Dieu nous aime. Amen. Pour couvrir un peu le reste de ces chapitres, ce sont des sujets dont nous avons déjà parlé. Lorsqu'il faisait le siège de certaines villes du pays de Canaan, il distingue deux cas. D'abord, les villes qui n'étaient pas dans la terre promise à proprement parler, mais en dehors. Là, ils devaient arriver en formation militaire et proposer la paix.
They would become marching in a military formation, but to propose peace.
faire la guerre, il faut la paix.
Non.
Je me rappellerai. Non. C'est une bonne façon de faire la guerre. Au lieu de commencer le combat, on menace. Si la ville acceptait de se rendre, alors ils devenaient des serviteurs d'Israël. Sinon, ils tuaient tous les hommes et ils gardaient les femmes, les enfants et le butin. Par contre, les villes du pays de Canaan, ils devaient les détruire complètement. Et on en a déjà parlé, il y avait 7 nations, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, c'est verset 17, les Phérésiens, les Héviens, les Yébousiens, et puis une autre nation, les Guirgasiens, qui est mentionnée au Deutéronome 7. Et encore une fois, cette sévérité extrême qui, des fois, fait dire aux gens qui veulent rejeter la Bible, dire « Je veux pas de ce Dieu sanguinaire, terroriste. » Mais cette destruction, ou les vouer à l'interdit, c'est-à-dire qu'il était interdit d'en profiter, elle est expliquée verset 18, « Afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les horreurs qu'ils font pour leur Dieu et à pécher contre l'Éternel, votre Dieu. » Et là, c'est vrai que ça pose problème des fois à certains de se dire comment un Dieu peut dire qu'il faut exterminer tout le monde, les enfants, les parents, les femmes. Mais ce qu'on oublie, c'était qu'ils étaient arrivés à un état de déchéance morale extrême. Dans la Genèse, déjà, Dieu expliquait à Abraham qu'il allait garder en Égypte son peuple pendant 400 ans. Mais dans la Genèse 15-16, qu'il reviendrait lorsque la déchéance morale des Amoréens, donc des habitants de la terre promise, aura atteint son comble. On sait qu'il commettait des tas d'abominations. Ils offraient leurs enfants vivants en sacrifice à des faux dieux. Ils pratiquaient toutes sortes d'immoralités sexuelles. Il y avait ce danger de contamination. Dans le livre des Nombres, on voit comment le prophète Balaam suggère à Balak que les jeunes Moabites aillent draguer les jeunes Israélites. Ce scénario avait bien marché. Ils méritaient de mourir à cause de leur péché et du fait que leur péché allait les conduire eux-mêmes à l'extinction. Déchéance morale n'est pas sans rappeler ce qu'on voit dans notre société. L'immoralité sexuelle progresse de jour en jour. soit très concret, Nancy m'a fait remarquer que maintenant on voit le bas du dos des hommes dans les publicités qu'on ne voyait pas il y a peut-être un an. Moi, j'avais pas remarqué que c'était nouveau. On en a parlé, on s'insurge contre la peine de mort. Mais on milite pour l'avortement. À l'époque, Dieu leur disait de les détruire complètement. Pour préserver Israël. Pour préserver la venue du Sauveur. Coming of the Savior. Si Israël avait été complètement absorbé dans le péché, Christ n'aurait pas pu venir. Il y a aussi l'analogie du chien enragé qui permet de comprendre cette sévérité. Imaginez que vous êtes surveillant dans une cour d'école maternelle. Et qu'arrive un gros Saint-Bernard, une bonne bouille, mais qui bave et qui est enragé. Il faut détruire le chien. Il ne faut pas dire, oh le pauvre, qu'il est beau. Si on veut protéger les enfants d'être infectés et de mourir, il faut détruire l'ennemi. Aujourd'hui, il n'est pas question d'aller tuer les docteurs qui pratiquent l'avortement. L'application, je crois qu'elle est plus difficile encore. Dieu veut que nous soyons aussi radicaux avec le péché dans nos vies. S'il y a des problèmes, ne pas les laisser traîner. Être énergique, détruire complètement les occasions, les sources. Versets 19 et 20, il est question un peu d'écologie biblique. Ce n'est pas une invention de Greenpeace. Déjà, la Bible s'inscrivait contre la violence gratuite contre la nature. Et là, il était dit que s'il y a des arbres fruitiers, ne les détruisez pas. Si vous devez utiliser du bois, prenez d'autres arbres que ceux qui peuvent vous nourrir. Ensuite, il est question des meurtres. Les meurtres sont coupables. C'est le verset 21, le chapitre 21, pardon, au début. Et là, il y avait un concept très important, c'était que la cité qui, sur le territoire duquel se passait ce meurtre, pour lequel on n'avait pas trouvé de coupable, devait assumer la responsabilité. Et les responsables, les anciens de la ville, devaient prendre une génisse, une vache, qu'ils offraient en expiation pour le meurtre, même s'ils n'étaient pas eux-mêmes responsables. Et là, je crois que l'application, c'est que arrêtons de nous défiler. Se défiler de nos responsabilités.
si vous êtes un patron dans une entreprise, un père de famille, un pasteur, un ancien, s'il se passe des problèmes dans votre juridiction, même si vous n'êtes pas personnellement responsable, vous êtes appelé à en assumer la responsabilité. Donc là, ces anciens disaient, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans notre juridiction, on va offrir un sacrifice. Je crois que notre société irait beaucoup mieux si les gens acceptaient les responsabilités qu'ils recherchent. Il est question ensuite des prisonnières de guerre, du droit d'aînesse lorsqu'il y avait plusieurs femmes. Je vous laisse lire ces versets du chapitre 21. Et toujours, on voit le souci de Dieu de préserver la partie la plus faible. Si par exemple l'aîné d'un père un père avait un fils aîné d'un premier mariage, qu'il se remariait, il devait toujours accorder le droit d'aînesse, la priorité au premier fils et non pas l'inverse. Les versets 18 à 21 nous parlent du traitement qui était réservé aux fils rebelles. Verset 18, si un homme avait un fils indocile et rebelle qui n'écoutait ni son père ni sa mère, s'il le punissait et qu'il continuait à ne pas obéir, alors à ce moment-là on l'emmenait au responsable de la ville qui le lapidait. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël appeine et soit dans la crainte. Toujours l'effet dissuasif de la peine de mort. C'est comme ça qu'on traitait le fils prodigue dans l'Ancien Testament. Et encore une fois, je vais vous donner soif de connaître toute la Bible. Parce que quand on lit l'histoire du fils prodigue de Luc 15, le père qui accueille son enfant qui était parti dilapider sa fortune, si on ne connaît pas ces passages du Deutéronome, on ne comprend pas l'effet scandaleux que Jésus avait en parlant du fils prodigue. Ils entendaient l'histoire de ce fils prodigue et dans leur tête c'était déjà, mais comment est-ce qu'il a été lapidé? Où c'est qu'il a été lapidé? Jésus raconte qu'au lieu de le tuer, il court vers lui, les bras ouverts. C'est pas l'exécution, c'est la fête. La fête qui défie toute logique. Même son frère en est choqué et jaloux. Lui qui a toujours bossé sérieusement. Bien sûr, c'est fils prodigue, c'est vous et moi. Et Et nous pouvons crier merci à Dieu de ne plus être sous la loi mais sous la grâce. Amen. Au lieu du jugement, c'est la grâce. La grâce de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Merci à le Seigneur. Et finalement, les versets 22 et 23 font allusion au cadavre des pendus. Si l'on fait mourir un homme coupable d'un péché passible de mort et que tu l'es pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enseveliras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras pas le territoire que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Non seulement on avait déjà tué la personne par lapidation, mais on mettait son cadavre, on l'exposait sur un bout de bois, sur un poteau. Et c'était un objet de malédiction auprès de Dieu. Il ne fallait même pas que ce corps, ce cadavre, touche le sol pour de peur de le souiller. Et là aussi, il faut connaître ça pour comprendre Galates 3.13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Vous voyez comment tout se tient? Une façon de lire toute la Bible, c'est de lire le Nouveau Testament en allant lire tous les chapitres qui sont référencés dans le Nouveau Testament et qui se trouvent dans l'Ancien. Après le péché originel, la malédiction était tombée sur Satan, sur le serpent. Sur la nature, le sol, les chardons et les broussailles. L'homme était condamné au travail pénible, la femme à des accouchements douloureux. Lorsque Christ est mort, on lui a fait une couronne avec des épines, symbole de cette malédiction. Il a pris la malédiction qui était tombée sur l'homme et la création sur lui-même.